Je vous propose donc maintenant de revenir à une question un petit peu plus terre-à-terre, je dirais, qui est que tout à l'heure, je vous ai bien dit que la base fondamentale de toute foi protestante, de toute piété, c'est la Bible. La Bible, c'est le centre du protestantisme. Je dirais que c'est même sa définition, en quelque sorte. Et même, du coup, on pourrait dire que les différents protestantismes qui existent ont tous un rapport très étroit à la Bible, mais que ce qui distingue, en gros, certains en tout cas de ces différents protestantismes, c'est leur mode de rapport à la Bible. Et qu'en effet, il y a beaucoup de façons de lire la Bible. Entre une lecture qui serait dans certaines églises protestantes, qui elles seraient alors là de tendance plutôt sectaire, une lecture totalement fondamentaliste, c'est-à-dire certains, surtout dans pas mal de mouvements issus des États-Unis, croient que la Bible, elle a été dictée par Dieu et que donc tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la volonté même de Dieu. Et c'est vrai spirituellement, c'est vrai historiquement, c'est vrai scientifiquement, à tout point de vue. Et à l'autre extrême, alors il y a des gens qui prennent beaucoup plus de recul par rapport à l'Écriture. Et dans l'Église réformée, qui est notre Église, nous sommes plutôt de ce côté-là. Et au sein de cette même Église réformée, je dirais que tous les deux, les pasteurs Ouzio et moi-même, nous sommes encore un petit peu à la marge, enfin à l'extrême de l'Église réformée par le fait que nous prenons beaucoup de recul par rapport à l'Écriture. En effet, dans l'Église réformée, en tout cas, on accepte très volontiers la possibilité d'une critique historique. C'est-à-dire, oui, la Bible, c'est important, mais ça a quand même été écrit dans un contexte historique, dans une société, dans une certaine culture, et donc il y a un petit travail de rétroversion à faire pour ne pas forcément tout prendre au pied de la lettre et pour prendre un petit peu, finalement, de lire tout ça avec une certaine intelligence et une certaine distance. Et du coup, pour vous donner des exemples, on peut trouver toutes sortes de gradations dans ce recul par rapport à l'Écriture. En général, dans l'Église réformée, on trouve peu de gens qui croient dans la création en 7 jours. Vous savez, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Eh bien, même si George Bush y croit, eh bien, la plupart des réformés aujourd'hui ne croient pas à la création en 7 jours et sont tout à fait persuadés que le monde a été créé en 15 milliards d'années, comme nous l'enseignent les scientifiques. Bon, sur ce point, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est de savoir jusqu'où l'on va dans ce recul par rapport au texte. Et si je garde ce thème-là, qui est un thème un peu transversal dans l'ensemble de l'Écriture, des récits, je dirais, un petit peu miraculeux, si on continue, eh bien là, tout le monde ne va pas être d'accord. Et ça va montrer que même dans le sein de l'Église réformée, il va y avoir une certaine diversité dans cette lecture de la Bible. Oui, on est prêt à dire qu'il ne faut pas tout croire au pied de la lettre, mais où est-ce qu'on s'arrête ? Alors, d'accord, le monde n'a pas été créé en 7 jours. Si ensuite je dis, mais est-ce que Moïse a vraiment traversé la mer Rouge avec l'eau qui faisait un mur de chaque côté, comme ça, verticalement, comme dans les dessins animés ? La plupart vont dire, non, je ne pense pas, c'est sans doute une image pour dire que le peuple est l'image du croyant face à quelque chose d'intraversable et de difficile, et Dieu va l'aider à traverser ce qui lui semblait impossible à traverser. Bon, continuons. Si maintenant je vous dis, mais est-ce qu'il faut vraiment croire que Jésus est né de Marie vierge ? Alors là, c'est plus délicat. Aujourd'hui, je crois que dans l'Église réformée de France, à peu près la moitié des fidèles y croient et la moitié n'y croient pas. Si on regarde les tranches d'âge, chez les plus âgés, on a 90% qui croient à la virginité de Marie et 10% qui n'y croient pas. Et quand j'interroge mes catéchumènes qui ont 14 ou 15 ans, c'est le contraire. Il y en a 9 sur 10 qui n'y croient pas et un qui dit qu'il y croit pour essayer de faire plaisir au pasteur. Et un autre peut-être, de temps en temps, qui y croit vraiment. Alors, soit c'est une question de génération, soit les jeunes, en vieillissant, finiront par y croire, je n'en sais rien, on verra dans quelques années. Mais toujours est-il que nous tolérons très bien cet état de fait. Oui, effectivement, certains vont croire à la virginité de Marie, d'autres ne vont pas y croire, mais finalement, ce n'est pas un très gros problème. Il n'y a pas d'unité doctrinale à ce niveau-là, et on le tolère très bien. La seule chose essentielle, c'est de trouver la signification spirituelle de l'affaire et non pas matérielle ou historique. Mais alors si on continue, est-ce que vous croyez vraiment que Jésus a marché sur l'eau ? Eh bien là, je pense que beaucoup y croient. Mais néanmoins, dans l'Église réformée, on tolère des gens comme moi qui n'y croient pas. Et si on osait aller encore plus loin et de dire, est-ce que vraiment il est indispensable de croire au fait que Jésus ait été ressuscité en chair et en os ? Ou est-ce que l'on pourrait dire que la résurrection du Christ, c'est après tout un événement intérieur, une expérience spirituelle des disciples qui découvrent que spirituellement le Christ est quand même vivant à leur côté, bien qu'ayant été mis à mort physiquement, eh bien c'est quelque chose qui est possible de prêcher dans l'Église réformée. Et certains pasteurs ne s'en privent pas. Parce qu'effectivement, ça fait partie, je dirais, des variantes possibles et de la liberté du prédicateur et du croyant de se situer d'une certaine manière par rapport à l'Écriture. Donc vous voyez qu'il y a une grande diversité et une grande ouverture, mais qui n'est pas un problème, je dirais, pour le fidèle habitué à cela, parce que justement, il est habitué au fait de se dire « Eh bien, moi, j'ai ma propre foi, et simplement, j'accepte de discuter avec les autres. » Et alors, du coup, nous avons tendance à considérer dans l'Église réformée que la Bible, effectivement, n'est pas dictée par Dieu. On l'appelle parole de Dieu, par analogie, je dirais, pour bien dire les choses. Mais dans le fond, oui, je crois que la Bible est un témoignage fondamental d'un peuple qui a eu certaines idées très intéressantes sur Dieu. Et que de même, les Évangiles et le Nouveau Testament sont les textes chrétiens les plus proches d'un événement assez exceptionnel qui est l'événement du Christ, sur lequel nous allons revenir tout à l'heure. Et donc, effectivement, du coup, si la Bible n'est pas dictée par Dieu, ça donne évidemment une assez grande liberté. Et même si on est là en disant « oui, l'Écriture seule est autorité », néanmoins, ce n'est pas parce que vous allez me dire que saint Paul considère que tous les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ben moi, je dis « Paul le pensait », moi, je ne le pense pas. Et j'ai la liberté de penser autrement que ce qu'a dit Paul. Voilà. Mais néanmoins, ce recul, je dirais, par rapport à l'Écriture, cette désacralisation même de l'Écriture, d'une certaine façon, ne veut pas dire que l'on traite la Bible d'une façon secondaire. Parce que je maintiens que, de toute façon, et même chez les plus libéraux d'entre nous, peut-être comme nous sommes, la Bible reste vraiment le point absolument fondamental, essentiel, le cœur même, non seulement de notre pratique, mais aussi de notre vie spirituelle. Alors ça se voit déjà d'un point de vue formel. Oui, c'est vrai, par exemple, le culte protestant, le dimanche matin, qui est une liturgie chrétienne qui ressemble dans son déroulement exactement à toutes les autres liturgies chrétiennes, a pour particularité de mettre son centre sur la lecture de la Bible et la prédication. Donc la lecture de la Bible, bien sûr, et la prédication, qui est ce que je vous disais tout à l'heure, justement l'actualisation de ce message, et de ne pas garder un message comme une sorte de trésor de musée qu'il faudrait conserver sans l'utiliser, mais le fait qu'on a le droit de prendre ce message pour soi et de l'interpréter. Donc lecture et prédication, c'est le centre du culte. Et d'ailleurs, normalement dans un culte protestant bien compris, lecture et prédication font plus de la moitié du temps du culte. En effet, lecture et prédication... Un pasteur prêche en général une vingtaine de minutes, et à l'étoile c'est souvent plus, mais en tout cas donc ça fait plus de la moitié du culte lui-même. Donc la lecture de la Bible, la méditation sur la Bible, c'est le centre. Bien sûr, il y a dans certains cultes parfois des communions, que certains appellent donc l'Eucharistie, mais néanmoins cette communion n'est pas le centre. Et d'ailleurs, elle peut ne pas avoir lieu. Ici, à l'Étoile, la communion a lieu à peu près une fois sur deux ou un petit peu moins. Et par conséquent, elle est présente, mais ce n'est pas le centre. Ça, c'est important parce que le fait de recentrer le culte sur l'Écriture, ça a une autre conséquence. C'est que pour les protestants, la présence réelle de Dieu, elle se trouve quand le croyant lit la Bible et l'interprète. Et par conséquent, la présence réelle de Dieu, l'enjeu de la présence réelle, ce n'est pas quelque chose qui viendrait d'un rite ou d'un sacrement, cela vient de la confrontation à la lecture. Alors peut-être que vous voyez la conséquence essentielle, c'est que du coup, le fidèle n'a pas besoin de l'Église pour avoir la plénitude de cette présence, puisque la Bible, on peut la lire chez soi, dans son salon ou dans son lit. Et que par conséquent, même sans venir à l'Église, le fidèle peut avoir la plénitude de la présence de Dieu tant qu'il lit la Bible. C'est-à-dire que ça enlève à l'Église ce rôle de médiateur indispensable. Oui, le fidèle peut se passer de l'Église, même si l'Église est importante pour d'autres raisons, le fidèle peut se passer de l'Église. Cette importance de la Bible, on la voit donc dans l'Église aussi par le fait que en général, dans les temples protestants, il y a une table de communion, un autel, et sur cet autel se trouve une Bible ouverte. Alors cette Bible ouverte, ce c'est pas pour dire qu'on adore la Bible, mais pour dire, voilà, on est dans un lieu où il y a une Bible, certainement, et c'est pas une Bible fermée, c'est une Bible ouverte. C'est une Bible que l'on lit, une Bible qui est effectivement en marche, je dirais. Et puis dans la vie personnelle, dans l'éducation, je crois que la Bible a encore beaucoup d'importance. On a dit, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais que les protestants connaissaient particulièrement bien la Bible. J'aimerais que ce soit vrai, mais en tout cas, le catéchisme, par exemple, pour les jeunes enfants, s'appelle l'école biblique, et on considère que le plus important, c'est la connaissance de l'Écriture. Et ensuite, dans la vie spirituelle, la Bible et l'Écriture, je crois, gardent pour le protestant vraiment la fonction essentielle de sa foi, et il n'a pas tellement besoin d'autres livres, de prières, d'autres choses. L'Écriture lui suffit. Alors je dirais qu'effectivement, au niveau de la vie spirituelle, cette Bible est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que, bon, je ne sais pas si elle a été dictée par Dieu, je ne crois pas, mais néanmoins, c'est quand même un livre absolument génial, absolument transcendant. C'est un livre qui a une puissance extraordinaire, un livre qui a transformé des civilisations, un livre qui a transformé des existences, qui a transformé des vies, qui a transformé, qui a remis en route, qui a remis en vie un certain nombre de gens. Et donc ce livre, je le crois, il a une vraie puissance de vie. Alors d'où vient-elle? Ça, je n'en sais rien. Probablement que, pour ce qui est du Nouveau Testament, le Christ lui-même avait cette espèce de puissance absolument exceptionnelle qui nous est transmise par l'intermédiaire de ceux qui l'ont connu et qui ont témoigné de cela dans l'Écriture. Mais en tout cas, je crois qu'il y a dans la Bible vraiment quelque chose qui peut faire vivre et qui peut faire grandir l'homme. En effet, la Bible n'est pas, c'est pas un traité de doctrine, c'est pas un livre à croire, c'est pas un traité de morale, ce n'est pas un livre auquel il faudrait obéir, ce n'est pas un livre à appliquer, mais c'est un livre qui transforme le lecteur. Et ça fait 2000 ans que c'est expérimenté. C'est un livre qui transforme celui qui le lit, qui le fait grandir, qui lui fait se poser des questions, qui le fait s'élever et qui l'aide dans sa propre démarche. Tout à l'heure, je vous disais que le protestant est celui qui finalement se fait lui-même sa propre foi et sa propre démarche. Et si on dit que le protestant est celui qui se fait lui-même sa propre foi à partir de la Bible, ce n'est pas pour appliquer la Bible comme on appliquerait un mode d'emploi d'un objet que vous auriez acheté, mais c'est parce qu'il considère que c'est cette Bible qui va être son meilleur compagnon pour l'aider à grandir. Et il est vrai que, tout en étant très libéral sur beaucoup de points, je crois très fondamentalement qu'il y a une puissance divine dans la Bible et que la Bible peut transformer une existence et peut être une source absolument extraordinaire pour tout le monde. Mais malheureusement, elle est d'un accès difficile. Elle est d'un accès difficile. Et c'est pour cela qu'il y a des pasteurs. C'est que le pasteur, ce n'est pas un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Le pasteur, c'est un professionnel de la Bible. C'est quelqu'un qui a fait des études, si vous voulez, des études de théologie. Le pasteur est donc quelqu'un qui est compétent, un expert dans l'Écriture et dans la théologie, qui est là pour essayer d'aider les fidèles à avancer dans leurs propres recherches. Parce que oui, tout seul, je crois que c'est un peu utopique. Et tout seul, dans cette propre recherche, on finit par buter sur des incompréhensions, sur des méconnaissances, sur des problèmes divers ou variés. Et que par conséquent, il est bon d'être à plusieurs pour renouveler son intérêt pour l'Écriture, pour discuter avec d'autres, pour se remettre en cause, pour se remettre en marche. Et le pasteur est là, non seulement pour donner peut-être des éléments de connaissances qui manquent à tous ceux qui n'ont pas étudié la théologie pendant des années, mais aussi pour remettre justement le fidèle dans une démarche qui va l'inciter à avancer. Et de ce côté-là, je crois que la prédication protestante est quelque chose d'un peu particulier pour ceux qui n'y sont pas habitués, en le sens que c'est une prédication souvent provocatrice. Provocatrice parce que le but, c'est de mettre en mouvement. Et donc souvent, mon collègue et moi-même, dans une prédication sur un texte, nous présentons un aspect des choses, un aspect peut-être partiel, sans doute pas vraiment juste. Et le but, c'est plutôt que celui qui entend ça se dise « Bon, il n'a pas entièrement raison, il a tort, mais dans le fond, il n'a pas entièrement tort. Et tiens, je n'avais pas pensé à ça. Il faudra que j'y réfléchisse et c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour moi. » Et c'est quand il y a justement cette stimulation qui apparaît dans la prédication que le fidèle peut se remettre en marche et peut justement retrouver une pensée qui sera la sienne. Alors qu'une prédication trop sage, je courrais le risque d'obtenir une sorte d'adhésion générale de tout le monde et qui dirait « Ah mais ce pasteur est formidable et moi je trouve que tout ce que dit le pasteur un tel, c'est très bien et j'y crois. » Eh bien non, on n'est pas là pour croire dans ce que dit le pasteur un tel ou le pasteur machin, on est là pour croire ou pour vivre à partir d'un message qui est celui de l'Évangile avec lequel on rentre en dialogue.